Allô, oui.
Bonjour, Gilles Marchand, comment allez-vous?
Ça va très bien, David.
Oui, alors on va pas se vouvoyer, on va pas faire
Je
semblant, on se connaît depuis un certain
me
temps.
posais la question.
Non, 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 non. On va pas faire les grands entretiens radiophoniques de Radio France dans les années 50. Non. Donc bonjour, nous sommes le 4 avril 2020, pendant la période du confinement. C'est l'après-midi. Je suis David Meulemans, l'éditeur des éditions Forges de Vulcain, et je profite du confinement pour appeler les auteurs et autrices des Forges. Et aujourd'hui, Gilles Marchand. Bonjour
Oui,
Gilles.
voilà, c'est ça.
Oui, je ne t'ai rien dit que tu ne
Bonjour.
savais déjà. Voilà.
Oui, non, non, mais j'étais en train de me demander si on faisait un deuxième départ.
Non, 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 non,
Mais
non. Non, c'est-à-dire que mes compétences techniques étant très très limitées, il est absolument inenvisageable de faire un montage. Donc en fait, tout ça est fait en condition du direct. Il n'y aura pas de montage. Et en plus, pour rendre la chose un peu plus corsée, je n'ai pas du tout préparé.
Très bien, ça me va.
Donc voilà. L'idée de ces entretiens, c'est pas de demander aux auteurs de parler de leur œuvre, mais je faisais la réflexion que les bons auteurs étaient souvent aussi des bons lecteurs, soit qu'ils lisaient beaucoup, soit qu'ils avaient une grande culture générale, soit ils avaient une vraie pénétration d'esprit dans ce qu'ils lisaient. Et j'ai repensé comme ça à tous les textes que tu m'as fait découvrir. Alors, je voudrais peut-être commencer par quelque chose qui est vraiment pas très connu, parce que je voudrais pas qu'on l'oublie, mais ce qui est une lecture qui, moi, m'a beaucoup marqué, c'est Arriaga. Est-ce que tu
Ah
peux nous
oui.
parler d'Arriaga? Comment tu as découvert cet auteur? Quel est cet auteur? Est-ce qu'il y a un texte ou deux que tu recommandes particulièrement?
Alors, Arriaga, alors d'abord une première chose, hein, je pense qu'il faut que je dise pour débuter cet entretien, c'est que je n'ai aucune mémoire des textes que je lis. Je me souviens d'avoir adoré certains livres, c'est des auteurs que j'affectionne particulièrement. Mais je n'ai aucun souvenir ou rarement des histoires que j'ai lues. Je peux avoir des souvenirs, j'ai des scènes, j'ai des ambiances comme ça qui me reviennent à l'esprit, mais je serais bien incapable de reconnaître, même si je devais faire mon top 10 de mes livres préférés, je pense que même L'amour au temps du choléra, par exemple, qui en fait partie, je pense que je serais pas capable de le raconter.
Non,
Mais
mais
bon, ceci
oui,
étant dit, ça ne répond pas à ta
ça
question.
commence bien.
Non, non. Donc, Arriaga, en fait, je l'ai découvert à l'époque où je faisais des chroniques pour Calibre, qui est un site de littérature noire et policière. Mais c'était un moment où moi, je n'avais aucune culture de cette littérature-là. Et c'était Julien Védrenne, donc qui me faisait parvenir des services de presse qu'on lui envoyait. Et il y avait une collection à l'époque qui était vraiment géniale et qui était chez Poinceuil, qui était collection roman noir. Il y avait une collection thriller, une collection roman policier et une collection roman noir. C'était à peu près la même charte graphique. Et avec juste la couleur qui passait d'un jaune assez clair à un jaune orangé à un orange en fonction de la collection. Et moi, je m'étais plus ou moins, c'est pas un spécialisé, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, je m'étais focalisé, disons, sur cette collection Point Roman Noir. Et il y avait notamment donc Guillermo Arriaga. Qui a publié trois ou quatre livres dans cette collection, dont un recueil de nouvelles. Alors, de mémoire, c'est L'Escadron Guillotine et Un doux parfum de mort. Voilà, parce que je n'ai pas la mémoire des livres et je n'ai pas la mémoire des titres aussi. Mais là, je pense pouvoir affirmer que ce sont ces deux titres-là. Voilà. Et donc, moi, ce que j'aimais dans cette collection, c'est que, bon, je pense qu'il est assez loin maintenant le temps où le polar est dénigré et où la littérature noire en général est dénigrée. Je pense que on parle même plus de sous-genre. Je pense que même la plupart des titres de ces collections étaient d'ailleurs en grand format en littérature générale. Et puis, bon, après, ça, ce sont des choix d'éditeurs, de libraires. Mais moi, en tant que lecteur, c'est pas tellement une question que je me pose. Mais pour répondre enfin à ta question. Ce que j'aime chez Guillermo Arriaga, c'est ce que j'aime dans J'ai beaucoup d'auteurs étrangers, notamment d'Amérique du Sud. C'est cette manière de parler de sujets souvent sombres, souvent des sujets douloureux. Alors là, que ce soit des trafics, que ce soit des dictatures, que ce soit des révolutions, avec à chaque fois un pas de côté vers l'humour et un certain. Alors, ça peut être du réalisme magique à la Garcia Marquez, mais pas forcément aussi marqué, juste une espèce de fantaisie un petit peu amusée. C'est ça, un humour, même dans le noir, il y a de l'humour, quoi. Et je pense que c'est assez caractéristique d'Arriaga. Alors, pour ceux qui connaissent pas Arriaga, c'était longtemps le scénariste d'Inarritu, le cinéaste. Et jusqu'à, donc, je crois qu'il avait fait Amour Chienne, Babel et il m'en manque un, Amour Chienne, et 21 grammes, peut-être.
Oui, 21 grammes.
Ouais. Et après, il avait arrêté le cinéma d'Inarritu et est devenu beaucoup plus sombre à partir du moment où il a moins travaillé, où il a plus travaillé avec Arriaga. Donc, je pense que ça, c'est une de ses caractéristiques de légèreté dans le sombre et d'humour dans le sombre. Voilà.
Ouais, alors moi pour l'instant j'ai lu l'Escadron Guillotine sur ta recommandation et effectivement c'était assez fantastique avec effectivement cet humour très voilà mais un style beaucoup peut-être un peu plus sec que d'autres auteurs avec lesquels on peut le comparer mais effectivement une vraie bonne lecture. Alors c'est vrai que moi je l'ai lu, je pense que ça a été repris chez Libretto, donc maintenant c'est chez Libretto
Ah, c'est
l'Escadron
possible.
Guillotine. Hein. Mais oui, effectivement, remarquable lecture, remarquable conseil. Alors, autre chose, j'aimerais te faire parler d'un auteur. Alors, j'ai très honte parce que justement, je ne l'ai jamais lu, parce que c'est un auteur anglophone. Et vous êtes plusieurs, dont toi, m'en dire le plus grand bien, mais comme j'aimerais trouver le temps de le lire en anglais, que je ne l'ai pas en anglais chez moi, je diffère le moment où je vais enfin le lire, c'est David Peace.
Ah, David Peace.
Alors, dis-toi que beaucoup, beaucoup de gens qui nous écoutent ne connaissent pas du tout David Peace. Donc, fais-nous découvrir David Peace.
David Peace, il faut le lire pour le découvrir, mais je pense que non, mais
Faut commencer par quel texte, en
c'est.
fait? Voilà, c'est tout simple.
Alors je sais pas, moi je l'ai pas tout lu parce qu'il fait partie de ces auteurs que j'ai envie de pouvoir lire tout au long de ma vie. Et donc moi j'ai commencé par Rouge ou mort. Alors c'est un livre sur le foot. Hein. C'est sur l'histoire de Bill Shankly, qui est l'entraîneur mythique de Liverpool, qui est une espèce de, je sais pas à qui on pourrait le comparer, une espèce de Giroud avec une conscience ouvrière très très. Une de ses premières décisions quand il est arrivé à Liverpool, ça a été notamment de faire refaire les toilettes du stade d'Anfield Road. Parce qu'il trouvait que c'était indigne de faire payer les spectateurs pour supporter une équipe et que ces spectateurs-là n'aient même pas des toilettes décentes pour aller se soulager à la mi-temps. Et donc, mais bon, ça c'est le sujet du livre presque importe peu parce que ce qui m'a marqué, alors moi c'est vrai que j'aime le foot donc c'était peut-être plus facile pour moi, mais ce qui est absolument hallucinant, c'est le style de David Peace qui a un sens de la répétition, de la scansion qui fait. Je pense que c'est vraiment un des très grands textes que j'ai lu ces dernières années, Rouge ou mort. Il y a quelque chose d'hypnotique dans sa littérature, dans sa manière d'enchaîner les pages avec. Je pense que on sent le travail et le génie, ce qui est assez rare. C'est-à-dire quand j'ai lu Rouge ou mort, j'avais envie de le remercier de m'avoir montré que c'était possible de faire ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ah,
Il y a
si,
quelque
je
chose
vois
de
très bien, c'est
l'impression
bien.
de. Il y a quelques auteurs comme ça. Alors, je sais pas. Il y en a quelques-uns. Comme la première fois que tu lis Le Voyage au bout de la nuit, par exemple, ou Mort à crédit, tu as l'impression de. Ou la première fois que tu lis Boris Vian ou Romain Gary, où tu dis ah, ça. En fait, c'est possible. Il y a des gens qui. Alors, je ne sais pas s'ils inventent, hein, parce que j'ai pas une culture littéraire universelle, et peut-être que certains me diraient que ça a été fait avant, mais ça m'a fait ça avec David Peace, avec Christian Gailly, dans un genre très différent, qui est chez Minuit, et qui est français. Il y a cette espèce de surprise du rythme de la phrase. C'est ça, il y a un côté très très scansion ou très musical, hein. C'est peut-être parce que ce sont je connais pas la culture musicale de David Peace, celle de Christian Gailly est très identifiée, hein. C'est un vrai jazzman, mais il y a quelque chose d'éminemment musical. Enfin, ça pourrait être du rap, tu vois, si on devait comparer ça à une écriture très très rythmée.
Mais alors, justement, ça me donne une double en transition, c'est que c'est important pour moi. Je pense que souvent, pour qu'un auteur ou une autrice parvienne à faire œuvre, il doit creuser ce qu'il a vraiment en propre qui va le distinguer des autres. Et en fait, comment il va creuser cette culpabilité, cette singularité pour arriver à quelque chose d'un peu plus universel. Parmi les multiples singularités qui font Gilles Marchand, il y a effectivement ton intérêt pour le football, voilà, qui n'est pas un intérêt partagé par la terre entière, notamment parmi la population des lecteurs-lectrices, mais tu en parles toujours avec éloquence et tendresse. Donc ça me donne presque envie de voir un match de foot. Hein, donc voilà.
Il faut que tu regardes France RF à 82.
Oui, c'est vrai que sur YouTube, j'ai vu qu'on peut voir des vieux matchs, comme on revoit des vieux films. Mais une autre
Ah
passion,
mais
oui.
il y a des matchs, excuse-moi, c'est pas du tout le sujet, mais je pense qu'effectivement, je parle de France RF à 82, mais qu'il y a une dramaturgie complètement dingue. Mais le France-Italie 2006 avec le coup de boule de Zidane aussi, c'est une fin. En plus, c'est la fin de carrière de Zidane. Tu mets ça dans un livre ou tu mets ça dans un film, c'est presque trop.
Ah bah
Parce
le
que tu as
réel est
l'impression
toujours plus fort que la fiction hein, sur ce type de choses. Il faudrait pas dire ça. Le réel n'est pas plus fort que la fiction, surtout en période de confinement. Mais
Ben
non, mais une autre passion que tu as et tu as fait un petit signe vers cette passion, c'est la chanson.
non.
Alors
Ouais, la musique, et
la
plus la
musique.
musique que la chanson,
La musique.
ouais.
Mais alors, est-ce que tu pourrais un tout petit peu nous en parler et peut-être conclure sur des préconisations, recommandations musicales, peut-être contemporaines?
Ouais, c'est dur.
Qu'est-ce que tu écoutes, en fait,
Ah, mais
actuellement, par exemple?
actuellement, ça peut être. Si je réponds les Beatles, on va me prendre pour un.
Mais non, mais tu sais,
Donc,
des gens qui nous
non,
écoutent, qui découvrent Gilles Marchand,
mais
donc.
qui découvre. Il y a des gens qui découvrent les Beatles, tu veux dire. Non, ça peut être. En ce moment, je suis pas mal réécouté Niagara, parce que. Alors que je suis vraiment pas fan de la musique des années 80, il y a quand même. Je sais pas. Plus comment. Bah si, c'est peut-être à cause d'un de tes auteurs, hein, de Franck Thomas et de L'amour à la page, bon, qui n'est pas mon morceau préféré Niagara, mais donc voilà, j'ai un peu réécouté Niagara. Sinon, j'écoute beaucoup un groupe belge qui s'appelle Deus.
Ah
J'ai
oui.
beaucoup. Voilà, il y a un groupe français de jeunes qui s'appelle Feu Chatterton aussi, que je trouve vachement bien. Leur deuxième album est vraiment bon. Et pourtant, j'ai un côté snob un peu quand je vois des jeunes qui fonctionnent bien en musique. Ma première réaction, c'est de me méfier, de me dire, bon, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, ils ont vraiment des super morceaux. Et voilà. Non, mais après, si on se lance sur la musique, moi, je
Alors.
vais être parti pour plusieurs heures. Donc,
Ben on fera une autre émission.
enfin, on pourra faire une autre émission musique.
Alors quelque chose qui est peut-être connexe à la musique qui fait un peu qui est un peu rock'n'roll et voilà, c'est un texte dont tu m'as souvent parlé, que je n'ai toujours pas lu. Alors tu m'as tellement convaincu qu'il était génial que je l'ai en trois éditions. C'est Shangri-La de Malcolm Ox.
Ah, Shangri-La, ouais. Bah alors, Shangri-La, ça va faire une ouverture parfaite pour un des thèmes que j'affectionne, enfin, quelque chose qui me touche beaucoup en littérature. C'est certain, il y a certains personnages qu'on peut retrouver dans Shangri-La de Malcolm Knox, donc chez Asphalt, qui est un livre. Alors, pour moi, c'est une énigme. Comment ça se fait que ce livre soit pas un tube, quoi? Enfin, un tube, comment on dit, un best-seller. C'est un livre que j'ai trouvé tellement fort, tellement impressionnant, tellement pareil. Je parlais de génie tout à l'heure, mais il y a du. Je pense même que ça sera le livre de sa vie. Enfin, je sais qu'il en a écrit d'autres, mais c'est un livre incroyable. Et
Allez,
donc
dis-nous de
pour
quoi
moi,
ça
ça
parle, quand
pourrait.
même.
Alors, ça parle. Mais faites-moi confiance. Allez-y.
Ah
Allez-y. Non, c'est l'histoire d'un. d'un sort. Mais non, parce que en plus l'histoire c'est comme David Pease, quand tu parles de foot, il y a plein de gens qui disent ah ouais, mais c'est du foot, je m'en fous, ça m'intéresse pas, etc. Là, Shangri-La c'est l'histoire d'un surfeur. Alors quand tu dis ça, les gens ils imaginent Kelly Slater torse nu sur une planche, ou Alerte à Malibu. Je dis ah non, j'ai pas envie de dire ces histoires-là. Alors qu'en fait c'est beaucoup, que ce soit Rouge ou Mort ou que ce soit Shangri-La, ce sont, je dirais pas que ce sont des prétextes à raconter une société, un monde et une époque, parce que c'est au-delà. Si c'était un prétexte, ces livres ne seraient pas réussis, mais c'est en racontant la vie de ces personnes-là, de ces personnes hors du commun, on fait le portrait, enfin, l'auteur fait le portrait de toute une époque et de tout un, en l'occurrence pour Shangri-La, c'est donc c'est l'histoire d'un surfeur. Quand je dis que je me souviens plus de ce que de mes histoires, c'est, je pourrais pas situer l'époque, je dirais 70, années 70. Et donc d'un personnage asocial qui a décroché, qui a arrêté le surf du jour au lendemain, qui était une énorme star, hein, s'inspirait d'une histoire vraie, enfin c'est une histoire vraie. Et un jour, ce gars-là, qui est un peu un des fondateurs du surf, qui a marqué toute une époque, disparaît plus ou moins et s'isole. Et une journaliste, plusieurs années après, peut-être 30 ans après, je ne sais plus longtemps, le retrouve, un gars immense qui doit faire, je sais plus, 100 ou 130 kilos, qui ressemble plus du tout à sa légende. Et elle veut savoir pourquoi est-ce qu'il a arrêté. Et ils vont raconter, alors je ne sais plus si c'est elle ou lui, mais il raconte cette histoire-là, l'histoire de sa vie. Et il fait partie de ces personnages, voilà, c'était ce que je voulais dire tout à l'heure, qu'on aime détester ou qu'on déteste aimer. C'est-à-dire ces histoires, ces espèces de connards, hein, d'asocial, de personnes qui est mal dans son époque et qui a pas d'affection particulière pour ses congénères, voire qui souvent gros complexe de supériorité, un peu à la comment il s'appelle ce personnage dans La Conjuration des imbéciles, Ray.
Ignatius, non, comment il s'appelle?
Voilà, Ignacio Riley, je crois,
Voilà, c'est
ou
ça, c'est
merde,
ça.
Ignatius, enfin bon, bref, en tout cas lui, et qui fait partie pareil de ces livres que j'adore. Moi, j'ai tendance à les rapprocher. La Conjuration des imbéciles, Shangri-La, et j'en mets même un autre dans cette série-là, c'est Le Seigneur des Porcheries de Tristan et Golf, avec un personnage extrêmement fort, avec des gens qui ont été bien matraqués par la vie, qui n'ont pas grandi dans une école privée. Enfin, j'ai rien contre les écoles privées, mais en tout cas, ils n'ont pas été choyés par leur entourage, disons. Et qu'on suit comme ça dans leur vie, qu'on suit au plus près. Et je trouve, enfin, à chaque fois, ce sont des personnages d'une force. Et tu avais publié aussi un livre, je te rappelle un petit peu comme ça qu'on s'est connus, c'est qu'un livre, il n'y a pas de sparadrap pour les blessures de cœur, c'est ça? Où il
Les
n'y a plus
blessures
de sparadrap?
du cœur.
Des blessures du cœur, voilà. Et avec un personnage qui assez déstabilisant, quoi. C'est extrêmement désagréable, mais avec sa part enfin, voilà, qu'en fait des tonnes, et qu'on arrive à détester assez facilement, mais avec une certaine dose d'affection. Enfin, je sais pas comment exprimer ça.
Oui, bah,
Je sais
c'est des
pas si je suis très
personnages
clair.
qui ont une vérité en fait, qui sont très vrais, même si c'est très dur en fait à partir de la fiction de fabriquer de la vérité en fait. Et je pense que c'était ça l'exploit de ce roman, hein, c'était d'avoir créé un personnage antipathique mais entier, qui était bourré de mauvaise foi et pourtant qui avait une forme non, mais de très très grande vérité. Réussir à rendre très vrai quelque chose d'improbable, de quelque chose de loin de nous, et qu'on le comprenne et que tout en sans jouer sur l'identification, je pense que c'est important, surtout que c'est quelque
Oui,
chose
c'est
qui
ça,
manque parfois en littérature, hein,
c'est
cette
créer l'empathie sans identification, c'est peut-être ça, hein, ce qui est
Bah,
assez bluffant.
oui, et c'est ça, parce que en fait, fondamentalement, dans le monde réel, les autres, on s'identifie pas nécessairement à eux, et parfois on les comprend pas, et pourtant ils existent et ils sont cohérents. Et je pense que le défaut d'une partie du roman contemporain, enfin, c'est peut-être une partie du roman populaire, pas tout le roman populaire, mais c'est d'être trop sur des personnages qui sont des personnages de l'identification. C'est-à-dire soit ils ont trop peu de caractéristiques.
Oui, alors cela dit, les trois titres que je t'ai cités, c'est des romans contemporains.
Oui. Mais... Donc, mais simplement je pensais à ça parce que là, tout en t'écoutant, je me balade devant ma bibliothèque et il y a des manuels d'écriture. Et c'est la manière dont ils essaient d'encourager la création des personnages, c'est à l'inverse de ça. Mais en fait, ça rappelle tout simplement que les grands romans, c'est toujours des romans qui, d'une certaine façon, comprennent les règles, mais arrivent à aller contre elles. Et la règle de l'identification, de la sympathie pour le personnage, c'est une règle qui nous vient parfois du cinéma, mais qui quand elle est comprise pour être subvertie, fait des grandes œuvres. Alors attends, on a parlé quand même beaucoup d'auteurs de littérature étrangère. Ça m'a toujours intrigué, je vais te mentionner un auteur important, qui a été important pour toi, mais que t'as, dont tu t'es éloigné, comme une vieille conquête ou quelque chose comme ça, c'est Boris Vian. Et non, parce que tu vois, c'est le centenaire de la naissance de Vian cette année. C'est un auteur dont on rapproche souvent ton esthétique. Alors je vois pourquoi, mais je vois aussi en quoi elles sont très différentes. Parle-nous de ta relation particulière avec Boris Vian.
Alors, Boris Vian, moi je l'ai beaucoup lu au tout début des années 2000. Je me souviens exactement quand, parce que c'est au moment où je suis arrivé à Paris. Et donc j'en ai lu, je pense pas avoir tout lu, mais pas très très loin à mon avis. Mais bon, j'ai lu Boris Vian à 20 ans, donc à peu de choses près, et je pense que c'est un auteur qui m'a extrêmement surpris, qui m'a touché, donc j'ai dû en grandir en tant que lecteur, je pense, en partie avec Boris Vian. C'est pareil que tout à l'heure que je te disais que David Peace m'avait permis de voir que quelque chose, qu'une écriture était possible, peut-être que Boris Vian, sans que je m'en rende compte, à l'époque j'écrivais des nouvelles, peut-être que je commençais à écrire des romans, mais assez différent de ce que je fais aujourd'hui. Mais quand j'ai commencé à écrire Une bouche sans personne, hein, parce que c'est à partir d'une bouche sans personne, c'est surtout avec Une bouche sans personne qu'on m'a beaucoup parlé de Boris Vian dans mes références, dans mes influences. Et j'avoue que ça m'avait un petit peu surpris. Alors même si Boris Vian apparaît au détour du nom d'une librairie dans le livre, c'était un petit peu par accident. Et j'étais assez surpris. Et j'ai vu assez bien ce que les gens, c'est une espèce de réalisme magique à la française, ou de surréalisme, ou de fantaisie, d'humour, de décalage avec la réalité. Mais voilà, moi c'est pas. Enfin, moi je me sens plus proche à la limite de sa poésie. Je trouve qu'un texte comme Je voudrais pas crever. Et peut-être un texte qui m'a plus influencé que L'écume des jours ou que ses autres romans, par exemple.
Oui, alors après, c'est vrai que moi, la chose à laquelle j'ai pensé plus récemment, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de commémorations autour de Boris Vian, et voilà, il y avait pas mal de réflexions sur le fait qu'il était mélomane, musicien, critique musicale, et je me dis que ce qu'il distingue aussi de beaucoup de ces d'autres auteurs contemporains, c'est sa pratique musicale, et toi-même, tu as une pratique musicale. Et je me demandais s'il n'y avait pas aussi cet aspect-là, alors pour s'éloigner peut-être de Boris Vian, mais par exemple, est-ce que toi, ta pratique musicale, je ne parle pas de tes goûts musicaux, ta pratique musicale passée notamment, et peut-être contemporaine, tu penses que ça joue sur ton écriture ? Comment, ça joue toujours, mais comment ça joue en fait ?
Ça joue sur le rythme de certains passages que j'écris clairement avec une idée de lecture à haute voix. Il y a des passages où j'imagine une section rythmique derrière, ça m'arrive parfois. Mais après, je pense que tout ça est de l'ordre de l'inconscient, de la même manière que Boris Vian m'a certainement influencé, je vais pas dire le contraire, sur le travail de mes premiers romans, par la suite, hein, certainement aussi. Je pense que la musique m'influence en cours d'écriture. Je pense que la pratique de la musique nécessairement influence sur le rythme des mots, sur l'importance qu'on donne au rythme, au son, aux allitérations. Mais après, moi, je suis toujours un petit peu surpris. C'est vrai, quand on demande aux écrivains ce qui les influence, ce qui les nourrit, On s'attend beaucoup aux références littéraires, mais moi je pense que le cinéma m'a Fellini, dont il est pas mal question dans mon prochain, enfin, dont il est un peu question dans mon prochain roman, mais Fellini, les Beatles, dont on parlait tout à l'heure en musique, Inarritu, Chagall, ce sont des gens, des artistes qui m'influencent de manière ou qui m'ont influencé, qui m'ont nourri, qui ont participer à ce que mon écriture devienne ce qu'elle est aujourd'hui.
Alors là, comme effectivement, on n'a pas non plus plusieurs heures parce que je ne sais pas si mon téléphone peut enregistrer plusieurs heures d'affilée, mais ça me fait penser à quelque chose d'autre comme une source qui est de la formation ou de l'éducation esthétique des auteurs-autrices. C'est qu'en fait, je t'ai jamais posé des questions sur tes études. C'est-à-dire, je sais en fait quel type d'études tu as fait. Tu as fait plutôt des études d'histoire à l'université. Mais t'as fait une maîtrise ou juste une licence?
Une maîtrise et un DEA.
D'accord. Et alors, c'était quoi tes sujets?
Alors, mon sujet, c'était. Non, c'est pareil, on est embarqué dans 1 heure. Hein. Mon
Non,
sujet,
non, non.
c'était bon, c'était en gros
C'est pas les
l'histoire.
chevaliers de l'an 1000 au lac de Paladru.
Non, 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 c'est
D'accord.
histoire contemporaine, histoire des mentalités, histoire religieuse, notamment.
D'accord.
Avec notamment la place du catholicisme au cours des années 50, 60 et 70, au moment des révolutions de mœurs, enfin de morale, de l'arrivée de la psychanalyse, la confrontation de la psychanalyse avec la morale catholique traditionnelle, le débat sur le célibat des prêtres, etc.
D'accord. Est-ce que
Voilà.
ça n'apparaît pas directement dans tes romans?
Non, ça, non, alors c'est.
Mais peut-être là, il y a une affinité sur la période, en fait, hein, parce que tes textes se passent dans une forme. Ça ressemble un peu aux années 70, années 80, tes textes, même si c'est pas situé aussi précisément que ça. Il y a quelque chose. C'est un peu la France de notre enfance, hein, par moment. Parce que non, c'est pas juste de dire ça, parce que il y a. C'est pas très nostalgique en fait ce que tu écris, mais peut-être que. Ah, non, mais bon, écoute, ça m'a donné une hypothèse à creuser. Donc, quand je vais relire tes romans, j'irai
Oui.
chercher.
De
Mais.
piste.
Oui, c'est ça. Mais bon, et alors, qu'est-ce que tu lis actuellement?
Alors là, je viens de lire quelques premiers romans dans le cadre du jury du prix Régine Deforges, dont je ne vais pas parler évidemment, parce qu'on n'a pas encore débattu. Mais sinon, je lis, je continue de piocher. Je suis toujours en découverte et curieux de ce que tout le monde publie. Donc, avec toujours certaines littératures qui me parlent un petit peu plus que d'autres, avec certaines affinités avec soit les éditeurs, soit les périodes, soit les. J'ai pas mal fonctionné par période. Il y a un moment où j'ai beaucoup lu d'anglo-saxons, quand je me souviens avoir dévoré les Nick Hornby, David Lodge, Graham Greene, B.S. Johnson, Jonathan Coe, Christopher Brookmeyer aussi. On parlait tout à l'heure dans la collection Point Seuil, qui est un auteur de polar assez, je crois, écossais, si je dis pas de bêtises. Assez, enfin, super drôle, en fait. Et B.S. Johnson, qui est chez Kidam aussi, alors dans un genre très différent, lui qui m'a beaucoup fait réfléchir sur la relation entre l'objet et le livre. Il a écrit un livre, notamment, qui s'appelle Les Malchanceux, qui est un livre qui est pas relié, qu'on peut lire dans le désordre, et ce qui pourrait passer pour complètement gadget, mais ce qui prend tout son sens dans la mesure où c'est un livre sur la mémoire. Et c'est ce qu'il explique. En fait, il y a un début et une fin qu'on ne peut pas interchanger. Et après, donc c'est par petits livres, il y a des chapitres qui durent enfin, d'une page et des chapitres de 16 pages, je pense, à peu près de mémoire. 32, enfin, c'est par cahier. Et on peut lire dans le sens qu'on veut parce que la mémoire ne fonctionne pas de manière linéaire, de manière fluide, et la mémoire revient pas, les épisodes reviennent dans le désordre. Et donc, il s'est dit que s'il voulait être honnête, s'il voulait bien raconter cette histoire, il fallait qu'il laisse la chance au désordre pour raconter cette histoire-là. Et donc voilà, il a plusieurs sur plusieurs de ses livres, comme ça il a travaillé sur la relation entre l'objet et le livre. Et j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas dans quelle mesure ça m'a influencé. Ça m'a permis certaines libertés, peut-être dans certains personnages qui viennent illustrer. qui sont de passage dans mes livres. Peut-être que ça vient de B.S. Johnson. Et mais sinon voilà, dans ce que je lis en ce moment, je continue à lire toujours de la poésie parce que alors j'en lis un petit peu tous les soirs, mais quand je dis un petit peu, ça peut être un poème hein, ou ça peut être plus, mais j'ai voilà, j'ai mon petit rayon poésie à côté du lit. J'aime bien de temps en temps revenir mais parce que c'est un plaisir musical aussi, donc je m'y retrouve à voir. C'est comme écouter une petite chanson, lire un poème avant de se coucher, c'est un côté berceuse. Et puis c'est quand même assez bluffant. Bon, il y a toujours des quand j'ai découvert l'année dernière le poème À crier dans les ruines d'Aragon, il y a quand même quelque chose, un choc littéraire qu'on éprouve rarement. Enfin, je pense qu'il faut être honnête. Moi, ce que j'ai ressenti en lisant Rouge ou mort de David Peace, quand j'ai lu le poème À crier dans les ruines, ça m'a fait exactement le même effet. C'est comme quand on entend pour la première fois, je sais pas, Seden Soda de Deus ou je sais pas quel tube te parlera, mais comme ça, il y a des morceaux qu'on écoute pour la première fois, on se souvient où est-ce qu'on était. Tu sais, quand on écoute des témoignages des gens, des musiciens dans les années 60, ils se souviennent tous à quel endroit ils étaient quand ils ont écouté pour la première fois cette Sgt. Pepper.
Oui.
Et moi, je me souviens très bien où j'étais quand j'ai découvert le poème À crier dans les ruines d'Aragon, quoi. Et donc voilà, donc j'ai mon petit rayon poésie avec Éluard, Tsvetaïeva, Maïakovski, Sandrars, Brötigam, Bukowski, enfin tous ces donc des français de toutes les époques. Et puis pour le coup, j'ai pas une grande culture de poésie, donc je continue à explorer. Et comme mes défaillances de mémoire en poésie sont les mêmes qu'en roman, je les redécouvre presque à chaque fois, donc ce qui est un peu désarmant. Je serais incapable aujourd'hui de réciter un poème, à part peut-être mon rêve familier, et encore, je pense que je buterais à la troisième strophe. Mais il y a des mots, il y a des impressions qu'on garde, il y a des couleurs, des atmosphères
Et alors ça, tu sais,
qui survivent de tout ça.
là, ces jours-ci, au cours de ces entretiens, j'ai été très très frappé par le nombre d'auteurs des Forges, en fait, qui sont des grands lecteurs de poésie, en fait, même si moi je les connais comme romanciers, mais Michel Astrud, Romain Ternaux, Thomas Pock surtout, qui traduit aussi de la poésie, Francis Guévremont. Il y a beaucoup, beaucoup de lecteurs de poésie dans le catalogue. Alors, peut-être que celle qui est la plus lectrice de poésie, c'est Cathy Jurado. Qui elle est aussi poète et publiée comme poétesse, mais c'est vrai que, et je crois que c'est Thomas Pock qui m'avait dit que, en fait, même si on publie que du roman, il fallait pas perdre la poésie, c'est-à-dire que qui impose un rapport à la langue, un rapport à l'existence qui n'est pas le même que le roman. Enfin, il faut que le roman se nourrisse d'autres choses que du roman, en fait, hein.
Oui, c'est pas le même rapport, c'est ça, c'est pas le même rapport à l'existence, c'est pas le même rapport au temps et c'est pas le même rapport aux mots. Et ce qu'on peut laisser passer dans un roman pour la crédibilité d'une scène, par exemple, où c'est ça, on joue, le jeu n'est pas exactement, les règles du jeu ne sont pas exactement les mêmes, j'ai l'impression. En tout cas, chez la plupart des auteurs, je te parle en tant que lecteur là. Parfois, il y a, enfin, même d'ailleurs en tant qu'écrivain, parce que ce sont des questions qu'on se pose. Il y a certains passages sur lesquels on a vraiment envie de jouer sur une sonorité, mais ça peut être anecdotique dans un livre, ça peut être gadget, justement, on parlait de gadget tout à l'heure, ça peut perdre en sens, alors que dans un. Le poème, c'est un condensé, c'est ça, c'est différent, quoi.
Oui, non, mais c'était. Non, 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 c'est très juste. Hein. Moi, j'y pensais ce matin parce que je relisais du Ursula Le Guin, qui était aussi. Qui était romancière, mais qui était aussi poétesse et traductrice de poésie, en fait. Et elle parlait beaucoup de. D'une partie. C'est-à-dire qu'elle écrivait des nouvelles quand elle était enfant et adolescente, mais lors de ses études, elle a été traductrice notamment de Ronsard, puisqu'elle a fait son master sur. Les auteurs de la Pléiade, Et en fait, elle parle, il y a différentes pages où elle parle de comment c'est la traduction de poésie qui a changé en fait ses ambitions littéraires, en fait. C'est-à-dire, elle a gagné quelque chose dans cette expérience. Bon.
Mais tu sais, je crois que Nicolas Richard, le traducteur, il me semble qu'il a commencé en traduisant les poèmes de Brautigan, et que c'est comme ça qu'il est venu à la traduction. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble avoir lu ça quelque part.
Eh ben, j'aurai l'occasion d'aller vérifier. Alors, Brautigan, vous êtes, c'est déjà, je crois que tu es le troisième à le citer cette semaine. Michel Astroud l'a
Bah écoute,
cité,
hein.
et Romain Tardy
Romain, j'ai
aussi, hein.
cité, ouais, c'est ça. Ça m'étonne
C'est
pas.
ça, c'est ça, c'est ça. Bon, camarade, je vais te laisser reprendre une vie normale. Je te remercie beaucoup pour cet entretien.
Ouais, je me rends compte qu'on a parlé, j'avais pris deux, trois notes, et je me rends compte qu'il y a plein de gens dont on n'a pas parlé. Ça va,
Et ben, ça sera le prochain
on n'a pas parlé de
confinement.
McCarthy, on n'a pas parlé de Peter Eller, on n'a pas parlé du Malville de Robert Merle, ni de Harry Mulisch, ni de Nabokov, ni de Garcia Marquez un petit peu. Et on n'a pas parlé de BD non plus. C'est important, je pense qu'il faut pas négliger. C'est vraiment un plaisir que j'ai eu. Bah, tu dois raccrocher là, c'est ça.
Non, 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 vas-y, vas-y,
Mais il
vas-y.
faut, mais à un moment, il faudra quand même ouvrir le chapitre bande dessinée parce que ce soit les scénaristes, les dessinateurs, ceux qui font les deux, les coloristes, etc. Et c'est comme en littérature, faut pas oublier les traducteurs. Et ça m'embête parce que tu vois, je t'ai cité plein de romans et j'étais pas, j'aurais dû nommer les traducteurs. Il faudra le faire à l'occasion. Et je pense que en BD aussi, il y a quand même beaucoup d'œuvres qui ont contribué, enfin que je continue à en lire un petit peu, mais beaucoup moins qu'avant. C'est un peu cher, c'est le problème. Enfin, c'est le prix, hein,
Non,
mais
mais
il y a beaucoup quand même d'auteurs de BD qui ont certainement contribué à ce que j'écrive comme ça, quoi, que ce soit. J'ai grandi en lisant Bourgeon, Bilal, Gibras, Tardi, Loisel, enfin tu sais, tous ces gens-là quand même qui, sans parler des Astérix et de Raon, enfin de ce que je lisais avant, mais des Tintins, mais tous ces gens-là, c'est un premier rapport à la lecture, comme l'ont certains en lisant des mangas. Maintenant, je vois mes gamins qui lisent beaucoup de mangas. Ce sont des choses qui façonnent un esprit de
Oui.
lecteur et un
Et
rythme.
ça change la façon d'écrire. Hein. Mais
Ouais.
le premier de nos entretiens confinés, c'était celui avec Thomas Pock, qui était vraiment le pilote de nos entretiens avec un peu essuyage de plâtre. Et en fait, Thomas Pock, qui n'est pas auteur de BD, mais qui est bien romancier et poète, et traducteur de poésie, on partageait cet émerveillement, alors qui est un peu analogue à l'émerveillement dont tu parlais face à David Peace, c'est l'émerveillement qu'on a eu face à certaines œuvres d'Alan Moore ou de Neil Gaiman, où en fait on a un sentiment de mélange d'ambition et de maîtrise, d'être allé au-delà de ce que l'être humain peut faire habituellement, d'avoir réussi à saisir une complexité, une beauté, une justesse qu'on croyait inaccessible en fait. Et ben oui, et effectivement la BD. Bon, mais tu sais, avec un peu de chance, le confinement va durer très très longtemps et reviendra chaque année, donc on aura l'occasion de faire d'autres émissions.
Voilà, on ouvrira le chapitre Victor Hugo aussi, alors.
Oui, d'accord.
Oui,
Bon, ouais, Gilles, je te remercie beaucoup. Je te laisse reprendre une
merci
vie
à toi.
normale et
Ouais.
à bientôt.
À très bientôt, David.
Au revoir.
Au revoir.